Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour à tous. Je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'En Spectateur et c'est le 55e déjà. Au sommaire, aujourd'hui, trois volets. Donc, dans un premier temps, nous discuterons du Musée du Moi, une pièce proposée par En Scène du 2 au 4 mars et dont nous vous parlions la semaine dernière. Puis nous reviendrons sur la version du Cid, jouée en ce moment au Théâtre National Populaire. Et enfin, Chloé nous donnera un nouveau point de vue sur Ce qui nous regarde, le spectacle joué au Théâtre Nouvelle Génération au mois de février, spectacle dont Anna vous parlait la semaine dernière, et donc on aura un nouveau point de vue. Et on commence sans plus tarder ce programme chargé. Donc comme je vous le disais, nous allons d'abord revenir sur le Musée du Moi, une pièce écrite et jouée par le collectif Il, en théâtre Cantor. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, un chroniqueur et deux chroniqueuses. Une nouvelle voix d'abord, celle d'une nouvelle recrue. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Une voix bien connue maintenant. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Et une voix qui fait presque partie des meubles du studio maintenant. Bonjour Maëlys.
Bonjour Marie. Je suis un meuble qui parle, voilà.
Mais non, je sais bien que tu es beaucoup plus que ça dans cette émission Maëlys. Alors, est-ce que tu serais quelque chose dans le Musée du Moi? Ça, par contre, c'est une autre question. Alors,
question.
Ce Musée du Moi, cette pièce, c'est l'histoire d'un musée qui accueille et expose les vidéastes les plus populaires et regardés des internets. M, A et L, nos trois personnages, sont exposés comme œuvres vivantes depuis 12 semaines déjà, et un compteur rappelle régulièrement leur nombre de followers et leur progression. Le conservateur du musée leur adjoint une petite nouvelle, Cécile, une internaute propulsée star aux milliers d'abonnés. Et de là, c'est la crise, la jalousie des trois héros, jusqu'à l'éviction de M, A et L. Le Musée du Moi change d'œuvre, mais le système reste bel et bien en place à la fin. Alors pour ouvrir la discussion, je laisse d'abord la parole à Antoine. À toi de nous dire ce que tu as pensé de la pièce.
J'aimerais commencer cette chronique en partant de ce titre, le Musée du Moi, dont nous comprenons toute l'ampleur et les implications avant même le début du spectacle, lorsque nous sommes invités à visiter ce musée, confectionné par nos jeunes auteurs, qui révèlent à la fois leur humour, leur sens habile du second degré, ainsi que la dimension excessive de cet égotisme dans lequel nous sommes embarqués. Mais c'est là toute la force d'une pièce dont nous ne nous lasserons pas de saluer la sensibilité critique que d'avoir su ne pas céder à cette position aisément condescendante de celles et ceux qui se disent suffisamment matures pour dénigrer cette mise en scène du moi sur la toile, cet acharnement à la mode, au mainstream, aux codes sociaux. En ne cédant pas à cette position condescendante, à ce mépris si coutumier, tout en conservant une distance critique par rapport à ce phénomène bien connu de la génération Y, le spectacle nous invite alors à éprouver un sentiment nouveau, celui de l'empathie. C'est tout l'effet produit par ces trois jeunes, M, A et L, mâles, qui sont moins des héros triomphants sur la toile, malgré l'assurance avec laquelle ils nous apparaissent, l'assurance des stars adulées, que des victimes d'un système qui les exploite de part en part, les saisissent sans ne plus leur accorder la moindre capacité de mouvement, jusqu'à l'explosion. Ces explosions dont nous sommes témoins, nous, publics, aux différents moments de l'œuvre, d'abord celle de L, hantée par sa jalousie envers Cécile, la nouvelle recrue, puis celle de M, qui dans l'excès de sa proposition cherche à rendre absurde notre propre voyeurisme en voulant se dénuder pour le satisfaire, enfin celle de A, qui mettra fin à ce trio triomphant sur la toile, permettra de franchir ce seuil d'intolérance qui marque ce passage entre l'acceptation tacite d'un système dont nous faisons partie et sa remise en cause problématique voire radicale. C'est donc à la compassion que nous invite cette pièce, bien plus qu'à la dénonciation ou au mépris qui habite la plupart de ceux qui regardent Twitter d'un regard strictement extérieur. Une compassion rendue possible par l'implication très forte du public dans ce processus, tout au long de la pièce. N'oublions jamais que c'est notre regard, si distant et critique soit-il, qui contribue à nourrir ses notoriétés numériques et à briser des vies comme celle de Mal. C'est l'intérêt du personnage de Cécile, personnage du public, qui, sans n'exprimer rien d'autre que son incompréhension, se trouve impliqué dans un processus qui la dépasse, voire qui les dépasse tous. C'est selon moi vers cette réflexion que nous conduit la pièce, en nous présentant la puissance des contraintes systémiques qui s'exercent sur les personnages et dont il semble très difficile de retracer l'origine comme si personne n'en était vraiment responsable. C'est en ce sens que nos auteurs ont sans doute bien lu Les Liaisons Dangereuses, dont ils nous ont dit qu'elle avait été l'une de leurs sources d'inspiration, mais en réécrivant de manière peut-être encore plus cynique le roman de Laclos, car c'est comme si Valmont et Merteuil n'étaient rien de plus que des victimes, en rien responsables du sort de Cécile, puisqu'ils sont eux-mêmes agis en dernière instance par des forces plus grandes, par un système social qui les détermine de part en part. C'est sans doute le point de la pièce atteint par un brechtisme innovant, en nous montrant la puissance d'un système hautement disciplinaire dans lequel la volonté des individus n'a qu'un poids négligeable, le caractère tragique d'un monde dans lequel la responsabilité s'est perdue, comme cachée, enfouie dans les plis informatiques, dans les réseaux, dans les petites mains qui tapent les hashtags, les yeux innocents qui like et follow, les corps innocents qui se déplacent au théâtre. Et c'est très certainement cette perspective brechtienne qui a permis à la pièce d'aborder aussi finement le rapport des stars du net à leur public, ce rapport ambigu amalgamant rapport amical, professionnel, amoureux, voire conjugal. La subtilité avec laquelle le vocabulaire d'abord professionnel, tablant sur le travail, l'effort, se transforme en un vocabulaire de plus en plus conjugal, tablant sur la fidélité, la trahison, lorsque le public ne follow plus, nous permet de saisir toutes ces nuances. C'est donc presque un festival d'images que nous convie le Musée du Mois, des images étonnamment bien familières, puisque derrière ces questions faussement étrangères de la popularité sur le web, de l'importance d'une esthétique de Photoshop, se cachent en fait les rapports sociaux qui sont les nôtres et les systèmes auxquels nous continuons de participer, que ce soit les systèmes scolaires de notation, de concurrence pour être le meilleur, ou ces systèmes de relations dans lesquels il faut toujours correspondre à l'idéal de l'autre. Comment donc ne pas saluer l'esprit critique d'une pièce et d'auteur si jeune, ayant su si bien parler de réalités aussi diverses et actuelles ?
Merci Antoine pour cette critique tout à fait dynamique et informée et toujours aussi brestienne, mais on te reconnaît bien là. Alors pour commencer la discussion, peut-être un petit mot de réaction. Je devine que tu as bien aimé cette pièce,
tout à fait.
Justement.
Tu as bien écouté Marie.
Qu'en est-il pour vous, Émilie et Maëlys ?
Alors, je vais avoir le mauvais rôle du coup, je crois, dans cette émission.
Chouette.
Moi, je l'ai trouvé pas mal, enfin, au niveau de la mise en scène, au niveau de du décor, etc., vraiment très travaillé. Par contre, je ne l'ai pas trouvé si abouti que ça, en termes de scénario, en termes de... Voilà, je trouvais ça un peu plat, peu couru d'avance, et j'ai surtout pas réussi à m'identifier au personnage, en fait.
Ok, et ben on va revenir là-dessus dans un instant. Et toi, Émilie ?
Alors, je suis assez divisée aussi. Je trouve le propos très intéressant, assez novateur, puisque ce sont des jeunes auteurs, donc c'était brillant, l'idée de base, et son application n'est pas complètement aboutie. Je suis assez d'accord. Il y avait des manques. Je ne sais pas si c'est parce que c'était la première représentation, mais le fait que ça devait être un théâtre en immersion, au bout d'un moment, ça ne fonctionnait plus.
D'accord. Et moi, pour le coup, c'est vrai que c'est une pièce que j'ai trouvée très intéressante, mais pareil, que j'ai trouvée déjà assez courte. En fait, c'est peut-être un peu dommage parce que le propos est intéressant, les personnages sont intéressants. Peut-être du fait de la brièveté même de la pièce, on n'avait pas assez le temps de développer les caractères, les personnalités, peut-être pas assez le temps de s'attacher aux personnages, et du coup, peut-être pas assez le temps de développer tout le propos que le texte voudrait développer.
Je suis d'accord.
Ouais. Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que moi-même, la fin, je suis un peu resté sur ma fin, justement. C'était un peu brut.
De toute façon, ça s'est vu, hein. Le public n'a pas applaudi tout de suite, attendez...
Enfin, à notre représentation, en tout cas.
À la nôtre aussi.
D'accord. Pour revenir sur ce que tu disais, Maëlys, par rapport au fait qu'on ne s'identifie pas, je pense que c'est voulu. Donc je pense pas qu'on puisse leur reprocher ça, en fait, tu vois. Le fait que tu te sois pas identifié, c'est peut-être justement, on veut que tu te sentes extérieur, on veut te montrer combien, tout en étant très extérieur à un système, tu continues à y contribuer du fait de ton regard, en fait.
Alors, moi, ce qui m'a un peu dérogé, c'est le côté très culpabilisant qui était voulu, visiblement, avec les monologues des personnages qui étaient un peu en mode j'accuse, etc., quand ils pétaient leur câble devant le public. Moi, j'avais pas encore écouté l'interview de la...
C'est mal.
La mise en scène. Et je savais pas que c'était participatif. Donc déjà, j'arrive, fallait sortir ses téléphones portables, fallait applaudir, acclamer, etc. Tout d'un coup, on se retrouvait passif, en fait, parce qu'on était accusé, pointé du doigt avec vous êtes complice, etc. Et moi, j'avais juste envie de me dire, me lever, de prendre le micro et de dire, ok, meuf, moi, j'ai pas Instagram, j'ai pas Twitter, j'ai pas été sur Facebook depuis 2013.
Tu n'arrives vraiment... pas à te sentir concernée, parce que tu fais partie de ces normaliens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux.
Ouais, j'ai trouvé ça un peu manichéen et surtout.
T'es contre la participation pendant le spectacle.
En fait, le côté participatif fonctionnait très bien au début avec le Musée du Mois, le fait que le présentateur soit avec nous dès le début, qu'il est arrivé comme ça, des trois acteurs qui se font applaudir et que le quatrième personnage soit dans le public. Mais à partir du moment où Cécile monte sur scène, ça fonctionne plus parce qu'on sait que c'est pas quelqu'un réellement du public. La magie opère plus, on n'est plus que spectateur, alors ce qui peut être intéressant peut-être pour dénoncer cet anonymat qu'il y a sur les réseaux où on se résume à un pouce bleu ou au contraire à une expression très négative. Mais à ce moment-là, on devenait spectateur et on s'en prenait en effet plein la tête au point de se faire culpabiliser. Et ça venait peut-être aussi du fait que le public n'était pas adapté à cette pièce. C'était un public pour nous assez âgé, on avait même des retraités
qui étaient notre cas aussi.
Pas concernés par ce genre de problématique. Et je pense que peut-être le format d'une heure comme ça pourrait être intéressant à jouer auprès de lycéens ou de collégiens.
Ouais, c'est ce qu'on se disait. Ouais. Par contre, par rapport à ce que tu disais, Maëlys, c'est intéressant parce que je suis en désaccord avec toi point par point.
Vas-y, développe.
Non, parce que je suis pas du tout... Enfin, je pense vraiment que cette pièce a beaucoup de défauts. Enfin, par exemple, on peut l'attaquer notamment sur sa dimension inaboutie. Je pense que c'est une bonne critique, en effet. Et je pense qu'ils le reconnaîtraient eux-mêmes que, voilà, ils sont jeunes, ils n'ont pas... Par contre, je ne suis pas sûr que la critique qui dit que... Nous, parce qu'on n'a pas Twitter, on ne se sent pas concerné et qu'ils cherchent à nous culpabiliser alors qu'on n'y est pour rien. Cette critique-là, elle me dérange un petit peu parce que j'ai l'impression que justement, ils ont réussi à nous faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on n'a pas Twitter ou Instagram que on est forcément extérieur à tous les processus de starification. Enfin, que c'est ce que j'ai essayé de dire dans ma chronique, c'est que j'y voyais beaucoup de choses derrière. Et puis rien que le fait, je sais pas moi, des stars même hors du net, il y avait aussi ça derrière. Au tout début, quand ils arrivaient, c'était le Festival de Cannes, quoi. Et je pense qu'il y avait aussi ça, il y avait une réflexion sur ce que c'est que idolâtrer quelqu'un. Et je pense que à ce niveau-là, on est un peu tous concernés, tu vois.
Ouais, bah après, là-dessus, c'est pas si nouveau que ça. Enfin, le star system, il date pas de Twitter.
Ah oui, je suis d'accord. Oui, mais c'est d'accord.
Pas, je crois, mais non, bien sûr.
Enfin, moi, je le prenais toujours au second degré quand il s'adressait à nous, parce que c'était moins pour qu'on se sente coupable que pour qu'on se dise, mais les pauvres. Enfin, parce que évidemment, ils nous apparaissent un peu ridicules quelque part. On se dit, ils nous accusent alors qu'on y est pour rien. Ils sont, tu vois.
Il regardait les. Moi, ça m'a marqué parce qu'il cherchait les regards en fait dans le public. Moi, j'ai capté le regard plusieurs fois de.
Oui.
Voilà. Et ça, voilà, donc ça, c'est assez fort, je trouve.
Oui, ça participe vraiment d'une démarche. C'est assez courageux, je trouve. C'est pas courant qu'on voit ça. Alors, j'aimerais bien qu'on vienne un peu sur les personnages. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai réussi à m'attacher quand même assez à eux. Alors, à M, A et L, oui. Cécile, je sais pas pourquoi je l'ai trouvée particulièrement antipathique. Je sais pas si c'est votre cas.
Elle était assez fade, mais puisque c'est inspiré des Liaisons dangereuses, c'est vrai que, enfin, je me rappelle quand j'avais lu les Liaisons dangereuses, Cécile, j'avais aucun attachement pour elle. C'était la victime et tant pis. Finalement, on préfère Merteuil et Valmont qui sont le couple victorieux et qui finissent par s'autodétruire. Et c'est le cas de Mal. Je pense que c'est pour ça qu'on s'est beaucoup attaché à Mal, qui deviennent très tristes et qui vont s'adresser au public. Alors que finalement, Cécile, quand elle s'adresse au public à la fin pour dire « Ah non, je refuse ce système », bah non, elle est déjà dedans. Donc ouais. Sa résistance est très limite puisqu'elle ne sort pas alors que Mal décide de sortir.
Et ils décident de sortir. Et il y a aussi ce côté attachant que ils sont amis et on le sent. C'est pas non plus trois entités froides qui agissent comme ça, chacun séparément de manière très individualiste. Et c'est pas le cas. C'est pas M A L, c'est Mal, quoi.
Moi, je me suis absolument identifiée à Cécile et pas aux trois autres.
Une petite victoire de la pièce qui a réussi à.
Mais non, Mal. Déjà, il y avait la petite exposition en haut et je disais, ok, c'est le reflet d'une époque, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de leur premier casque de mobylette et de leur collection de portables. Enfin, moi, à titre personnel. Mais après, ils sont arrivés en mode. Disons qu'on trouvait qu'on avait accès à leur personnage que par la photo au gala de charité avec Adriana Carambeu, que par le discours un peu très formaté, etc. Et donc, très, très superficielle, et du coup j'ai eu du mal à rentrer dans leur personnage. Et puis aussi le fait, je pense que j'ai un peu fermé les écoutilles, ça m'a un peu énervé les pétages de câbles, et du coup je me sentais tellement visée et un peu énervée de pas pouvoir répondre que j'ai fermé les écoutilles. Enfin,
ça t'a dérangé.
Peut-être déjà une réussite de la pièce, non? Si ça a réussi à t'énerver et que t'avais envie de répondre, ça veut dire que c'était quand même bien joué, du coup.
Ouais, c'était bien joué, mais c'est plus le propos.
Toi, Émilie, qu'est-ce que t'en
penses? Je suis d'accord, le revirement était trop rapide, c'était d'un coup le pétage de câble, mais ce qui fait quand même référence à des cas sur Internet de personnes qui étaient des personnalités publiques. Des fois, ils avaient commencé dans leur chambre sans se douter que ça allait prendre une telle ampleur, et à un moment, ils pètent un câble et ils perdent en effet des abonnés. Et Cécile Petit Lapin, pour revenir là-dessus, complètement apeurée, moi, la voir trembler comme ça sur scène, je savais déjà... Enfin, je trouvais ça surjoué.
Ah oui,
c'est
je
d'un
comprends.
Coup, elle se retrouve sur scène, elle commence à trembler. Bon, elle peut être pas confiante, mais si c'était réellement un personnage du public, bon, bah, elle est dans le musée du mois, elle est face à des personnes qui paraissent sympathiques au début.
Alors, j'aimerais bien qu'on parle aussi de l'esthétique de la pièce, justement, puisqu'on parle de ce personnage de Cécile. Une des scènes que j'ai trouvées les plus réussies dans la pièce, esthétiquement, c'est cette scène de la transformation, qui est assez chorégraphiée. On la prend, on la déshabille, on lui donne une autre tenue, on la maquille, on la coiffe de manière très très mécanique, avec tout un tas d'injonctions qui sont scandées comme une litanie derrière avec un fond musical. Moi j'ai trouvé que c'était une scène très réussie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Je suis assez d'accord. On était dedans, quoi. En plus, il y avait tout le système de la voix off qui en même temps répétait, lancinait son refrain. Il faut que tu sois belle, il faut que tu sois mince, etc. Qui marchait plutôt bien. À l'interview la semaine dernière, ils ont dit que justement, ils avaient souhaité traiter de la génération Y sans utiliser les moyens de la génération Y, c'est-à-dire sans utiliser un écran, par exemple, sur scène, des vidéos, enfin ce genre de choses.
Il y avait quelque chose de projeté, non, au départ?
Ouais, c'est vrai qu'au
ouais,
départ,
oui,
il y
avait le prompteur au départ.
Le prompteur. Avec un effet comique, les propos voilà, sont écrits parfaitement, ouais. Et on comprend que c'est un prompteur, et en même temps il y a des choses qui sont introduites dedans, genre elle, si tu souris pas comme à la répète, je te casse la gueule, enfin, des choses comme ça.
Mais c'est vrai que, juste pour finir, c'est vrai que du coup, ça aurait peut-être gagné à plus utiliser les moyens numériques. Je pense que ça aurait gagné à ce qu'il y ait des effets vidéo, ce genre de choses.
Oui, la mise en scène était pas mal pour mettre en avant les coulisses qui sont finalement très proches de la scène. Le problème du prompteur, c'est que la projection, nous, on n'arrivait pas à la lire, ce qui fait qu'on perdait pas mal des gags, puisqu'on voyait que la moitié, on comprenait que les personnages étaient liés à ce prompteur. Et puis surtout, ça, tout de suite, ça réduisait nos personnages qui étaient censés être des personnages très narcissiques à déjà des petites choses dans le système. Il aurait été bien d'avoir un moment où ils étaient emplis d'eux-mêmes et qu'ils ne soient pas déjà dépendants du système.
Donc un moment plus long que ce moment où ils descendent des marches dans le hall d'entrée.
Exactement.
Avant qu'on rentre dans le théâtre. Ouais. Ça gagnerait à être développé, à avoir davantage de scènes avant le pétage de câbles, avant ce genre de choses. Alors peut-être une dernière question pour refermer la discussion. Le Musée du Mois, c'est une pièce qui repassera en festival un peu plus tard dans l'année, au printemps. Est-ce que c'est une pièce que vous recommanderiez à des futurs spectateurs et spectatrices ?
Je pense que rien que nos dissensions devraient répondre oui, puisque finalement, ça montre que c'est une pièce assez ouverte pour que toutes les réactions soient possibles, et toutes les réflexions derrière aussi, puisqu'on peut en sortir des avis complètement divergents.
Moi, j'ai beaucoup aimé... Enfin, j'ai pas répondu à la question sur le décor, mais je trouvais que c'était vraiment bien... bien mis en scène, etc. Et surtout, on s'ennuyait pas parce que ça tournoyait, etc. On était toujours attirés par un bout de la scène, un bout de la scénographie. Tout roulait magnifiquement bien. Et c'était vraiment très, très beau à regarder. On s'ennuyait pas. Moi, c'est rare que je ne m'ennuie pas du tout.
Pendant une pièce.
Voilà. Mais voilà, pareil, moi, j'irais bien le revoir si c'était un peu peut-être mieux développé. Et surtout si la psychologie des personnages était davantage développée. Voilà.
Comme j'aime beaucoup le propos, je me dis que s'il continue à travailler, il y a un moment, ça va être très fluide, et que la pièce soit courte, ça ne sera pas gênant, parce que ça fonctionnera. Donc oui, je la recommanderai.
Moi, je le conseillerais à ma petite sœur. Voilà.
Les recommandations de Maëlys. Et bah, pour ma part, j'irais volontiers la revoir aussi, si j'avais l'occasion, ne serait-ce que pour voir comment les choses peuvent évoluer, puisqu'en effet, c'est la première fois qu'ils présentent leur travail, et c'est certainement amené à évoluer. Merci à tous les trois. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes toujours sur En Spectateur et on passe maintenant à la deuxième partie de l'émission où on va parler du CID, texte de Corneille et mise en scène d'Yves Bonnen, joué jusqu'au 11 mars au TNP de Villeurbanne. Et pour en discuter, je me tourne maintenant vers Mathias. Bonjour Mathias.
Bonjour Marie.
Alors c'est la première fois que je t'ai dans l'émission, même si tu as déjà fait des En Spectateur, donc je suis contente de t'avoir.
Merci.
Alors on va commencer avec un petit résumé du pitch du CID, au cas où certains parmi les auditeurs ne connaîtraient pas. Alors, c'est une histoire qui se passe dans l'Espagne médiévale, avec Rodrigue et Chimène qui sont amoureux l'un de l'autre et destinés à se marier. D'ailleurs, l'infante d'Espagne, amoureuse de Rodrigue, fait tout pour que ce mariage réussisse. Elle espère ainsi tuer un amour indigne d'elle. Mais les pères des deux amants se disputent, le comte, père de Chimène, frappe Don Diego, père de Rodrigue, et c'est le début de la tragédie. Rodrigue tue le père de Chimène demande vengeance, et voici les héros pris en grave conflit en dépit de leur amour. Alors... Je vous avais promis une chronique sur cette pièce, mais c'est encore mieux si je vais pouvoir en discuter avec Mathias. En un mot, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Alors, je ne vais pas faire de jeu de mots.
Non, pas celui que tu m'as fait tout à l'heure. Hein, j'ai été sidéré.
C'est ça. Non, j'ai été déçu.
Déçu. Eh bah, bien, moi aussi. On va donc pouvoir nous complaire dans notre déception à tous les
deux.
C'est
ça.
On peut commencer peut-être par le fait que c'est une pièce assez classique dans sa mise en scène, puisqu'elle était jouée... en costume d'époque ou prétendument d'époque. C'est vrai que bon, on voit ça dès le début. Bon, on se dit, d'accord, ok, très bien, ce sera une mise en scène classique pour une pièce classique, pourquoi pas.
Et ben ça, à la limite, c'est pas trop mal, parce que la mode de la comédie française, c'est de faire jouer des pièces classiques avec des personnages en jean, donc ça, à la limite, pourquoi pas.
Bon, assez rapidement, on voit que le jeu des acteurs qui est un peu décevant, je pense que t'es assez d'accord là-dessus.
Qui est même très, très en deçà des attentes d'un monstre sacré qui est le CID, en fait.
Ouais, voilà.
Surtout le personnage de Rodrigue, qui tient quand même toute la mâle force de la pièce, qui est clairement en deçà des exigences du texte.
Et je trouvais d'une manière générale que les acteurs surjouaient pas mal, ce qui est assez dommage. Le seul cas peut-être où ça m'a pas gênée, c'est celui de l'infante. Déjà, elle a pas mal d'importance dans la mise en scène, donc c'est pas mal. Elle a un côté un peu princesse complètement barge, quoi. Ouais. Elle est agitée dans tous les sens, avec les cheveux complètement défaits.
Le metteur en scène l'a fait jouer avec des voiles. Elle a un côté derviche tourneur dès le début.
Un espèce de mélange entre Bellatrix Lestrange et un derviche tourneur, tu vois,
Tu remarqueras que Clémence, qui a vu la pièce avec moi, m'a dit on dirait Bellatrix Lestrange en plein milieu de la pièce. Mais c'est vrai, elle a ce côté un peu vierge folle, qui à la limite est un parti pris de mise en scène qui ne me gêne pas plus que ça. Après, la question c'est la motivation. Pourquoi la mettre en scène comme ça, avec des attributs vestimentaires, quels que sont les voiles. Si ce n'est juste pour un effet, juste pour pouvoir l'habiller, en fait.
Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ça participait d'une espèce de démarche de désacraliser complètement la famille royale. Parce qu'il faut aussi qu'on parle de son père, le roi Don Fernand. Ça aussi, c'était quelque chose. C'est vraiment... on est à une époque post-révolution française, donc on n'est pas là pour sacraliser des rois. Et du coup, ils sont complètement désacralisés entre elle, qui est intéressante, mais qui est quand même un peu barge, et son père, qui joue un espèce de roi en collant rose, avec un énorme manteau de fourrure, complètement grabataire, dans son fauteuil roulant. Enfin, il est ridicule de bout en bout.
Bah, le problème, c'est que oui, désacraliser une famille royale, pourquoi pas, mais en même temps, on est quand même sur une pièce qui est fondée sur des valeurs d'ancien régime, l'honneur. Donc à la limite, pourquoi désacraliser la famille royale et ne pas désacraliser les fondations de la pièce?
Oui.
Et en fait, finalement, c'est un goût d'inachevé, parce que si on veut désacraliser le système d'ancien régime, on le fait jusqu'au bout, et en fait, le problème, c'est qu'on s'attaque aux fondations de la pièce, donc ça pose problème.
Bah oui, et ça pose aussi une autre question, qui est la question de... l'irruption du comique dans cette pièce, que je n'ai pas compris personnellement. Je sais bien que c'est une tragicomédie, mais une tragicomédie, c'est une tragédie qui finit bien, il me semble, et pas forcément une tragédie où il y a de l'humour. C'est vrai qu'il y a irruption d'un certain nombre de personnages comme ça qui sont bouffons et ridicules. Enfin, le public pouffait pas mal. On riait pas à gorge déployée non plus, parce que je pense pas que le texte de Corneille soit fait pour que tu puisses en rire à la base.
Je suis pas sûr.
Tirer un peu le texte trop fort pour faire rire du page, de Don Sange, du roi.
Parce qu'en soi, la pièce a quand même des ressorts comiques qui sont quand même là, ne serait-ce que d'avoir un personnage de valet. Le personnage de valet n'existe pas en tragédie. Il n'existe qu'en comédie.
Mm-hmm.
Ou alors ce sont des gouvernants, ce sont des personnes qui suivent les personnages d'hommes, mais ce ne sont pas des valets dans leur personnage de valet. Ensuite, les retournements de situation, de dire qu'en fait Rodrigue est mort, mais en fait non, il n'est pas mort. Ça, ce sont des scènes de reconnaissance, qui n'apparaissent qu'en comédie. Donc l'irruption du comique ne m'a pas plus gêné que ça. Après, il faut savoir doser. Garder le texte, et si le texte fait rire, tant mieux, c'est que le comique marche. Après, c'est vrai qu'avoir un personnage qui roule des mécaniques en disant « attention, là, ça va être drôle », comme peut l'être le personnage du roi, là, oui, ça pose problème.
Moi, il me semble que c'est quand même tiré un peu fort sur le texte pour essayer de le faire rentrer dans une volonté de le rendre comique, alors que c'était pas toujours forcément à propos. Bon, peut-être essayer de parler des points positifs de la pièce, quand même. Ce serait pas mal. Moi, j'ai bien aimé le décor. Bon, c'est vrai que c'est triste que quand tu dis d'une pièce que tout ce que t'as aimé, c'est le décor.
Oui, j'ai bien aimé le décor parce qu'il y avait des jeux de lumière.
C'est ça, c'est un grand mur avec des arabesques un peu mozarabes. Et au début, on a l'impression que c'est un mur plein avec des portes qui s'ouvrent. Puis après, on comprend qu'en fait, non, il est ajouré. Ça permet de faire un truc un peu ombre chinoise, jeu de lumière et tout.
Donc ça, oui, non, ça, c'était bien.
C'était assez... c'était pas mal.
Non, mais quand même, je vais quand même un peu sauver le personnage de Chimène que je trouvais un peu... Ah non, en fait, non. Je reviens sur ce que j'ai dit, parce qu'en fait, non, elle est vraiment pas bonne. je réfléchis. Non, ouais, non, il n'y en a vraiment aucun à sauver. Mais non, Chimène était en... Parce qu'en fait, on comprenait pas ce qu'elle disait. Elle parlait pas fort, elle parlait dans le fond de la scène, et elle parlait sur elle-même, donc on comprenait pas le texte. Rodrigue non plus.
Ouais, avec... Non, il faut dire que les stances...
c'est ce que j'ai trouvé horrible dans cette pièce, c'est que, ok, tout le monde n'a pas lu le Cid. Mais tout le monde connaît quelques vers du Cid, ne serait-ce que dans les stances de Rodrigue. Rodrigue, as-tu du cœur ? Il y a des passages que tout le monde connaît. Et alors, tous ces passages cruciaux, qui sont des attentes du spectateur, parce qu'on s'attend au moment où on va dire ces quelques vers, ils ont été systématiquement massacrés. Systématiquement passés à la trappe, dit rapidement, lancés comme ça.
Et ça, ça gâche pas mal de trucs. Enfin, moi, j'aime beaucoup aussi, par exemple, le monologue de Don Diego. Je l'ai trouvé très très mal exécuté. Enfin, et du coup, tu te dis, bon, allez, après, il y a les stances de Rodrigue. Non, elles sont ratées aussi. Enfin, non, ça accumule un petit peu entre ça et le surjeu des acteurs de l'autre côté. Dernier point, l'usage de la musique qui est fait dans cette pièce. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, toi ?
Honnêtement, je n'ai pas compris.
Moi non plus.
Non, parce qu'en fait, en gros, entre chaque acte, grosso modo, il y avait une partie chantée, une sorte de chant lyrique, dont je n'ai toujours pas compris dans quelle langue c'était chanté.
Mais c'est ça, peut-être même que c'était pas la même chose à chaque fois.
C'était juste peut-être des vocalises.
Ouais, on sait pas, est-ce que c'était de l'espagnol, de l'arabe.
Et honnêtement, j'ai pas compris le...
C'est ça, le seul
l'ambition.
Moment où j'ai trouvé ça à propos, c'est le moment où on met de la musique pour symboliser le passage où Rodrigue part combattre les morts avec les amis de son père. Et du coup, bon, il y a des rythmes assez guerriers, etc. Donc on voit que c'est pour te faire comprendre qu'il y a la bataille au loin, qu'a lieu hors scène, machin, avant que les personnages reviennent, quoi. Mais sinon... ça tombait comme un cheveu sur la soupe et on n'avait aucune explication par rapport à ça, avec le passage le pire peut-être, qui est le passage de la fin, où le metteur en scène a choisi de faire revenir le fantôme du comte, je sais pas pourquoi, qui arrive là comme ça ensanglanté et qui se met à beugler parce
oui,
que,
à mugir un bon cri bien du ventre et...
c'est ça.
Comme un animal qu'on dégorgeait. Mais
C'est ça, et en fait, on vient d'avoir la fin de la pièce, c'est censé être quand même un peu, bon, voilà, ça se finit bien, c'est grandiose et tout. Et là, c'est la dernière chose qu'on voit de la pièce, c'est ce mugissement du fantôme du père de Chimène. Bon, j'étais tentée d'éclater de rire parce que c'était très bizarre, quoi, et je sais pas si c'était voulu ou pas.
Alors, soit, oui, on pourrait dire que peut-être la fin peut être nuancée, parce que finalement, c'est peut-être pas une fin tout à fait positive, puisqu'il y a quand même la question de.
Voilà,
elle
aura toujours de la culpabilité, etc. Donc, en fait, il aurait fallu qu'il bugle pas.
Oui,
à la rigueur, pourquoi pas le fantôme.
À la limite, une scène figée aurait sans doute été un peu plus évocatrice.
Ça. Donc, je pense qu'on sera assez d'accord, tous les deux, pour répéter à quel point on a été déçus par cette pièce. Alors, chers auditeurs et auditrices, si vous tenez quand même à vous faire un avis, malgré ce qu'on vient de vous dire, sachez que la pièce passe encore au TNP jusqu'au 11 mars, et donc, plus d'informations à retrouver sur le site du TNP. Troisième et dernier volet de cette émission, on retrouve en duplex Chloé qui vient nous donner un autre point de vue sur Ce qui nous regarde, pièce de Myriam Marzouki jouée au Théâtre Nouvelle Génération au mois de février et pièce dont Anna vous parlait également la semaine dernière. On t'écoute, Chloé.
Ce qui nous regarde a été joué du 15 au 17 février au TNG de Lyon avec Louise Belmas, Reyes Beck, Rodolphe Congé, Johanna Cortals, Altesse. Le spectacle est mis en scène par Myriam Marzouki. Ce qui nous regarde, titre énigmatique s'il en est pour un spectacle de théâtre, art de la vue, du face-à-face entre les regardants et les regardés, entre les spectateurs et ce qui fait spectacle. C'est une expression que l'on doit à Didi Huberman et au titre d'un essai, certes amputé de moitié, ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Si ce dernier s'intéressait à l'art contemporain, ses réflexions ont servi plus largement et dramaturgiquement à l'élaboration de la pièce et au traitement de son objet, très précis, le voile. Le projet est né d'un constat, celui évident que la question du voile suscite des débats, des polémiques, soulève des affects particulièrement violents en France. 1989, l'affaire du voile. 2004, sous Chirac, l'interdiction de tout signe religieux dans l'espace public et l'agitation médiatique extrême qui en a découlé. 2010, l'interdiction cette fois-ci du voile intégral. Été 2016, évidemment, le burkini, dont, on s'en souvient, le buzz médiatique a littéralement stupéfait la presse internationale. Pourquoi une telle virulence ? Lorsqu'il s'agit du voile, les débats sont rarement discursifs et analytiques, toujours spontanés. La question que pose Myriam Marzouki est ce qui advient lorsqu'on cesse d'observer le voile comme un emblème renvoyant à des réalités extérieures, à une religion, à une culture, à des signes chargés, et lorsqu'on ne l'appréhende plus que dans sa pure matérialité. L'objet voile, dénudé de toute connotation, ramené à son simple caractère textile et pragmatique. Là est la réussite du spectacle. L'idée n'est pas de porter un jugement sur les femmes qui portent le voile, mais sur notre propre regard extérieur sur le voile lui-même. L'idée est de troubler ce regard, de révéler ses a priori, ses raccourcis. Et les surprises sont nombreuses. Confondre le regard du spectateur qui se pensait pourtant si sûr, si intègre. Le voile ramené si spontanément et systématiquement à l'islam se trouve être également trompe-l'œil. La para d'une vieille sicilienne, celui d'une femme de l'Europe de l'Est au milieu du siècle. Celui d'une bonne sœur catholique ou encore celui de l'effigie d'Audrey Hepburn aux États-Unis dans les années 60. What you see is what you see. Entraîner son regard à cesser l'emblème, à cesser le symbole, et à la suite de Frank Stella, ne voir que ce qu'il y a à voir, un regard tautologique et non plus un regard de croyance, pour filer la distinction établie par Didi Huberman. Ne voir que ce qu'il y a à voir, c'est cesser d'associer à l'objet d'autres images et d'autres significations. Cesser de projeter d'emblée sur l'objet vu un savoir, un imaginaire dont le spectacle nous prouve d'ailleurs qu'il ne nous appartient pas. Aux voiles est rattaché en Occident un inconscient véhiculé par les médias de masse, par ces images orientées, détournées qui font la une des journaux et de nos réseaux sociaux. Le voile devient burqa, les deux se confondent, alimentés par des titres anxiogènes à souhait. Et ce qui n'est pourtant que textile, permettant de couvrir les cheveux de tant de générations de femmes au XXe siècle, devient signe de radicalisation et, donc, un problème sécuritaire. Le spectacle a le grand mérite de remettre à plat cette montée en puissance, en emphase, en agression autour de la question du voile. Il nous montre que le voile n'est pas que le signe du repli religieux et communautaire, il est avant tout culturel. En témoignent ces photos si réjouissantes de jeunes femmes iraniennes et joyeuses, portant négligemment presque un simple ruban sur leur chignon. Ruban qui ne cesse de tomber, qui ne dissimule en rien leur visage, mais qui demeure porté, par coutume. Il nous montre que l'aliénation de la femme dont le voile serait le signe n'a rien à envier à l'aliénation de la femme moderne et dite émancipée, occidentale, subissant l'injonction à la nudité et à la conformité stéréotypée du corps, à force de médias, de journaux féminins, de clips avilissants. Il nous rappelle que c'est avant tout l'interdiction peureuse du voile en France qui est responsable de sa symbolisation à outrance. Interdire le voile, c'est au départ interdire le libre usage d'une coutume, c'est acculturer. C'est l'occasion de se souvenir de la campagne de dévoilement en Algérie française au début des années 50, qui avait incité, à l'inverse, certaines femmes dévoilées à prendre le voile en signe de solidarité avec leurs concitoyennes dont le vêtement avait été retiré dans la plus grande violence. Interdire le voile à l'école, ce n'est pas faire vivre en paix deux communautés, c'est pousser à la déscolarisation des jeunes filles voilées et au développement des écoles confessionnelles, et donc au repli identitaire pourtant initialement combattu. Bref, l'interdiction charge l'objet de signes qu'il ne possédait pas. C'est elle qui le fait devenir emblème, signe de protestation, d'opposition, d'exclusion. Face à cette guerre du regard et des symboles, qui contribue peut-être à la guerre effective, le spectacle propose un peu d'apaisement, bienvenue. Déshystériser la question, y penser avec tact, la rendre indécidable et infinie. Les tableaux s'enchaînent et convoquent une foule d'artistes ou philosophes qui aident à penser le sujet. D'Alain Badiou à Virginie Despentes, de Pasolini à Mathieu Riboulet et Patrick Boucheron, et la correspondance qu'ils ont entretenue après les attentats de novembre 2015. Les voix se font entendre, la question demeure ouverte. L'idée n'est pas de dire la manière dont il faut voir le voile, mais d'ouvrir les possibilités de regard et, face à l'indécision, envisager un regard enfin déchargé d'animosité et de crispation.
Et il est grand temps de refermer cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. À la régie, aujourd'hui, on remercie Marie.
Merci Marie.
Merci Marie.
Et vous aurez reconnu les critiques acérées et les voix de Maëlys, Émilie, Antoine, Mathias et Chloé. Merci à tous les cinq. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre
en spectateur.